Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi. Mon être est brisé.
Merci. Combien sont heureux d'être là? Combien sont reconnaissants pour la bonté, la grâce, la fidélité du Seigneur Jésus-Christ? Année après année, après année, après année, l'Église est encore là. Amen. Malgré les attaques de l'ennemi, malgré les mensonges, malgré les défis, les difficultés, les problèmes, on est encore là. Amen. Jésus est encore vivant. Amen. Nous sommes heureux d'être en sa présence et je vais vous demander de faire quelque chose, c'est d'exprimer cette joie et cette appréciation tous ensemble. Est-ce qu'on peut le faire avec une ovation debout et avec un cri de joie et de victoire devant le Seigneur Jésus-Christ? Béni soit le nom de Jésus. Digne de louange et d'adoration. Alléluia! Alléluia! Alléluia, Jésus! Demeurons debout pour un instant. Vous êtes un peuple consacré, vous savez. Vous êtes à l'Église malgré que c'est les éliminatoires de la Ligue nationale de football à la télévision. Vous avez choisi de venir à l'Église. Vous êtes un peuple consacré. Moi, je dis toujours que le football, c'est un jeu joué par 22 hommes désespérément de besoin de repos, regardé par des milliers d'hommes désespérément de besoin d'exercice. Et nous avons choisi d'exercer nos muscles spirituels ce soir. Et je sais qu'en ce moment, en Nouvelle-Angleterre, à Boston, il y a probablement des dizaines de milliers de personnes qui crient pour leur équipe. Et à travers les États-Unis, surtout à travers le monde même, il y a des gens qui regardent ces matchs, puis ils crient, ils poussent des cris pour leur équipe, ils crient pour les encourager à gagner. Quand nous, on crie pour Jésus, on ne crie pas pour l'encourager à gagner. On crie parce que la victoire est gagnée. C'est un fait accompli. Alors, s'il y a des dizaines et des centaines de milliers de personnes qui peuvent crier pour encourager leur équipe, et crier fort en plus, moi, je crois qu'on devrait crier encore plus fort parce que notre victoire est assurée. On est sur l'équipe gagnante. Est-ce qu'on peut le faire encore une dernière fois? On veut pousser un cri pour la victoire que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ. Digne de louange et d'adoration. Alléluia! Jésus, nous te louons, nous t'adorons. Ne naît comme toi sur terre et dans le ciel. On célèbre la victoire que nous avons en Jésus. Nous sommes sur l'équipe gagnant. Béni soit le nom de Jésus. Merci pour ta fidélité, ta bonté, ta grâce, ta présence pour le peuple de Dieu, pour la provision, pour le salut, pour le pardon. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ces moments, ta présence. Je prie pour l'onction de ton Saint-Esprit dans ces quelques instants encore ensemble. Visitation de ta présence, Seigneur, ton onction, ton esprit, pour vivifier cette parole à nos cœurs, comme une semence implantée dans nos cœurs, pour toute l'année, pour porter fruit, pour ta gloire et ton honneur, au nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Amen. Peux-vous asseoir? Prie pour moi, jeudi matin, je quitte pour Haïti. Jeudi de bonne heure pour quelques jours. Pour joindre le surintendant général des Assemblées Pentecôtes du Canada et toute les surintendants des districts de Terre-Neuve jusqu'à Colombie-Britannique pour parler de notre projet d'établir un centre de formation, une extension de l'Institut public du Québec en Haïti. Nous allons finaliser, nous allons présenter le projet, nous allons finaliser les détails d'un bail. On va signer un bail pour le 1er février et nous allons juste finaliser les derniers détails pour avoir un Institut public du Québec en Haïti qui fonctionne en l'an 2005. On peut donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur pour sa fidélité. Beaucoup de prières, beaucoup de combats, beaucoup de travail, beaucoup de victoires, de fêtes, de défis, mais nous sommes rendus avec l'aide de Dieu et nous allons travailler en partenariat avec missionnaire John Cottrell là-bas. Non seulement que vous êtes un peuple consacré, mais vous êtes un peuple courageux. Vous avez choisi de venir à l'Église sachant que vous étiez pour entendre un sermon de 9 points. Ça, c'est le courage, ça. 9 choses à vous partager ce soir. C'est annoncé dans le bulletin. Vous avez choisi de venir quand même. Est-ce qu'il est possible de prêcher un sermon de 9 points en 30-40 minutes? Est-ce que vous croyez au miracle? Vous croyez en Dieu, mais vous ne croyez pas en Pasteur Marc. Peut-être. Je ne veux pas vous souhaiter une bonne année. Je veux faire plus que vous souhaiter une bonne année. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, la bonne année est un peu comme le joyeux Noël. Il y a tellement de gens qui nous souhaitent bonne année qu'à un moment donné, on a le goût de dire, c'est assez. Laisse-moi tranquille. C'est trop de pression. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Je vais faire de mon mieux pour avoir une bonne année. C'est pour ça que je ne veux pas vous souhaiter rien qu'une bonne année ce soir. J'aimerais vous souhaiter une année comblée de 9 choses précises. Ça, c'est la pression. J'aimerais vous partager 9 qualités spirituelles, si vous voulez, pour l'année 2005. Pasteur Claude a parti une série de messages ce matin. Enseigne-nous comment prier. Moi, j'aimerais ce soir vous proposer quoi prier. J'aimerais vous proposer 9 requêtes précises pour avoir une année victorieuse, bénie, remarquable. Une bonne année. Une bonne année comblée de ces 9 choses que vous allez posséder. Non seulement que j'aimerais vous les proposer, mais nous allons prendre un temps de prière pour prendre possession de ces choses-là. On veut approprier 9 qualités dans nos vies pour l'an 2005, par la prière et par la puissance du Saint-Esprit. On veut prendre possession. 9 choses. Ça va être assez rapide. Inquiétez-vous pas. Tout sur PowerPoint. Je vous encourage de noter, si vous voulez. Comme ça va être des prières que vous allez faire, non seulement ce soir, mais pendant toute l'année 2005. Chacune de ces prières sont inspirées d'un endroit ou un lieu spécifique en Israël. J'ai eu le privilège, le mois de novembre passé, d'aller en Israël avec le pasteur Stéphane Kiri pour participer dans une conférence pour la musique, l'adoration et pour la prédication. Et pendant qu'on était en Israël, on a visité, c'est certain, on ne va pas en Israël sans visiter. Et quand on visite en Israël, ce n'est pas du tourisme qu'on fait. On ne visite pas tout simplement des sites touristiques. Quand on visite en Israël, on visite, c'est pas du tourisme, mais c'est la découverte de nos racines. Quand on visite des lieux, on découvre le fondement de notre foi. On découvre où ce que c'est arrivé, où ce que Jésus a marché. Et à chacun de ces endroits, j'ai prié une prière pour moi-même. J'ai dit, tant qu'à visiter ces différents lieux, je vais prier une prière reliée ou associée avec l'endroit. Ça m'efforçait non seulement à visiter les différents sites, mais ça m'efforçait à réfléchir sur la signification de l'endroit. Pas seulement dire, « Oh, c'est merveilleux, Jésus était ici, ou Jésus a fait ça ici. » Oh, c'est ça qu'il décrit dans la parole de Dieu. Mais de prier une prière, ça m'a efforcé, réfléchir la signification du lieu et de l'appliquer à ma vie. Demander la question, « Qu'est-ce qui est arrivé ici et qu'est-ce que ça a à faire avec moi? Qu'est-ce que je peux apprendre de ce lieu et de ce que Jésus a fait ici afin que ça soit bénéfique pour ma vie? » Et c'était des petites prières privées que j'ai priées sous mon souffle et que je partage avec vous. Et c'est ma prière pour vous pour l'an 2005. Moi, j'approprie ces prières-là pour l'année. Je vais prendre possession par la prière pour l'année 2005. Alors, chaque prière est inspirée d'une place clé que j'ai visitée, que je propose à vous, et j'aimerais que vous preniez possession dans la prière. Alors, rapidement, nous allons visiter Israël ensemble et nous allons appliquer ces prières à nos vies. Quelques-uns sont évidents, d'autres sont moins évidents. Quelques-uns vont prendre juste quelques secondes, d'autres quelques minutes. Le premier endroit que nous allons visiter ensemble, c'est Gethsémané. Le jardin de Gethsémané. Gethsémané, c'est une prière pour la persévérance. Gethsémané, quand j'ai contemplé Gethsémané, j'ai pris une prière, « Seigneur, donne-moi la persévérance. » Car c'est ici que Jésus a prié pour avoir la force d'aller jusqu'au bout, la force de compléter le travail, terminer la course, accomplir la mission. Gethsémané nous parle d'une prière qui se cède complètement et entièrement à la volonté de Dieu, malgré le prix à payer. Peu importe la difficulté, c'est d'avoir la confiance en Dieu malgré les grands défis. Jésus a prié une prière pour la persévérance en Gethsémané juste avant d'être écrasé ou massacré ou vivre la passion. Et qu'est-ce qui est significatif du mot « Gethsémané » c'est que « Gethsémané » signifie « pressoir d'olive ». Le jardin Gethsémané, c'est un jardin d'oliviers avec une pressoir d'olives, où ce que les olives sont écrasées afin de produire de l'huile. Et c'est là que, et je suis certain que la signification de cela n'a pas été perdue sur Jésus. Jésus priait juste avant d'aller à la croix. Il priait dans un jardin d'oliviers où il y avait une pressoir qui écrasait les olives. Et je suis certain que pendant que Jésus priait en Gethsémané, je suis certain qu'il voyait le parallèle et la signification n'était pas perdue sur lui. Il savait que bientôt, il était pour être écrasé littéralement afin de produire une huile de vie, l'huile du Saint-Esprit, l'huile de la joie, l'huile de rafraîchissement. Et Jésus savait qu'est-ce qu'il attendait. Il était pour être écrasé. Et c'est là, dans ces moments de grande pression, qu'il a prié, « Oh Dieu, donne-moi la force pour aller jusqu'au bout pour l'humanité. » Moi, j'aimerais qu'on puisse prier des prières pour la persévérance, pour aller jusqu'au bout en l'an 2005. Qu'est-ce que je peux entendre en amen à cela? Quand que vous vous ressentez comme cela, quand que vous ressentez sous la grande pression, vous avez l'impression que vous faites face à un grand défi, je vous encourage de prier la prière renommée que Jésus a priée en Gethsémané, qui est trouvée en Luc 22, 41-44, ça va être sur l'écran ici. La prière que Jésus a priée, puis s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais, » il voyait qu'est-ce qui était devant lui, « Si tu veux, si tu voulais, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier, étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il a prié une prière dans laquelle on retrouve un mot puissant. C'est un mot qui attire les anges du ciel. C'est un mot qui attire l'aide du ciel. Et c'est la prière la plus puissante qu'on peut prier, je l'ai déjà dit, et la prière qui inclut le mot « toutefois ». Toutefois, malgré, néanmoins, toutefois. Jésus a exprimé son sentiment. Jésus a exprimé son angoisse. Jésus a fait une requête, mais il a dit, « Toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. » Et ce que je prie pour l'an 2005, qu'il peut avoir plus d'hommes et de femmes. Oui, on peut décharger et vider notre cœur devant Dieu. On peut exprimer nos soucis. On peut lui parler de nos craintes et de notre angoisse. Mais à un moment donné, il faut tous prier « Toutefois. » Pas ma volonté, mais ta volonté, et persévérer dans la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Jésus a exprimé ses sentiments, mais a conclu sa prière avec toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, qu'on peut prier des prières de toutefois en 2005. J'aimerais, c'est des prières qui disent, j'aimerais que ça soit autre chose, mais toutefois, je continue. Je n'ai plus le goût de continuer, mais toutefois, je vais persévérer. Ça va être difficile de pardonner, aller, faire, arrêter, commencer, sacrifier et jeûner, mais toutefois, que ta volonté se fasse et pas ma volonté. C'est des prières qui disent, peu importe ce qui est demandé de moi, peu importe quel chemin qu'il faut prendre, peu importe les circonstances dans lesquelles je me trouve, toutefois, je vais obéir à Dieu sans excuse. Des prières de toutefois, c'est une parole puissante, c'est un mot puissant qui attire l'aide du ciel. Toutefois veut tout simplement dire que malgré mes sentiments, malgré mes émotions, mes réactions humaines normales face à certaines situations, malgré la tentation intense, malgré la grande pression, malgré les défis ou les demandes désagréables dont je fais face, je vais agir selon la volonté de Dieu. Quand même, si c'est possible, enlève la coupe, mais toutefois que ta volonté soit faite. C'est une prière de confiance où ce qu'on se cède complètement et entièrement à la volonté de Dieu et entre ses mains. Prière pour la persévérance. Je suis convaincu que la vie chrétienne sera plus brillante et l'Église plus efficace si on aura plus de personnes qui prieront plus souvent la prière de toute foi, de plus grande confiance. En 2005, non, mes rêves, mes ambitions, mes désirs, ma chair, mon opinion, mes droits, pas ma volonté, mais ta volonté en l'an 2005. Combien sont prêts à prier cette prière ce soir? Pas ma volonté, mais ta volonté. Donne-moi la persévérance pour aller jusqu'au bout dans la volonté de Dieu. La prière de toutefois, la guerre pour l'âme de l'humanité a été gagnée par la prière de toutefois. Il y en a qui dit, c'est pas sur la croix que Jésus a gagné le combat, c'est dans le jardin que Jésus a gagné le combat, quand il a prié et persévéré, quand il avait décidé d'aller jusqu'au bout. La guerre pour l'âme de l'humanité a été gagnée dans un jardin par une prière de toute foi. Combien sont heureux que malgré que la guerre pour l'humanité a été perdue par Adam dans un jardin appelé Éden, on a quelqu'un qui a gagner le combat pour l'humanité dans un autre jardin, c'était le jardin de Gethsémané, où ce que Jésus a gagné et Jésus a réussi, où ce que Adam a échoué. Adam a cédé à la tentation, mais Jésus a résisté à la tentation et il a gagné le combat pour l'humanité dans le jardin de Gethsémané par une prière de persévérance qui disait, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et la guerre pour l'humanité a été gagnée dans le jardin de Gethsémané. Jésus a gagné où ce qu'Adam a échoué par une prière de toute foi. C'est une prière qui dit, j'ai la guerre contre les demi-mesures, les choses moitié faites, l'abandon, c'est la force d'aller jusqu'à la croix, jamais arrêter au moitié du chemin, malgré la tentation parfois de jamais prendre le chemin le plus difficile, mais persévérer dans la volonté de Dieu. Et c'est une prière qui attire l'aide du ciel. C'est une prière qui attire les anges. Comme Jim Cimbala est prêché prêché ici, quand on prie, c'est un cri pour de l'aide du ciel, que les anges descendent du ciel, comme qu'ils ont fait pour Pierre dans la prison, comme qu'ils ont fait pour Zacharie, comme qu'ils ont fait pour Jésus, ça a tiré l'aide des anges pour le fortifier. Et quand on prie pour la persévérance, quand on prie des prières, toutefois, malgré, néanmoins, je vais continuer dans la volonté de Dieu, Dieu va envoyer l'aide du ciel pour vous fortifier dans votre situation, dans votre engagement et votre décision. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Il a envoyé les anges à sa prière. Ça me fait rappeler le chant populaire qui joue sur la radio, Calling All Angels. C'est un chant en anglais qui a capté mon attention. C'est un homme qui parle de toute la misère qui se passe dans le monde et le refrain, ça dit, I need a sign, calling all angels, à l'appel de tous les anges du ciel, viens au secours de l'humanité. Et c'est ça la prière de la persévérance, c'est d'appeler toute l'aide du ciel pour nous aider à accomplir la volonté de Dieu malgré les défis, les difficultés et les attaques de l'ennemi. La prière toutefois et la persévérance pour l'an 2005 et Dieu va nous envoyer l'aide du ciel pour nous fortifier. J'ai pris une prière pour la persévérance. Deuxièmement, à Golgotha, le lieu de la crucifixion, j'ai fait une prière pour la pureté. C'est là, à Golgotha, qu'on contemple comme il faut le prix que Jésus a payé, le massacre, l'humiliation, la souffrance et la douleur pour moi, pour mon péché. Alors, j'ai prié une prière, « Seigneur, aide-moi à vivre une vie pure par rapport au prix que tu as payé pour mes péchés. » Et c'est venu à mon esprit, la parole de l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 6, verset 20. En contemplant ce que Jésus, le prix que Jésus a payé, il a dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Il parlait de la croix, Golgotha. Glorifie donc, c'est quoi notre réponse, c'est quoi notre réaction face au grand prix que Jésus a payé? Glorifie donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Moi, je prie pour une pureté qui n'est pas imposée par des règlements, une pureté qui n'est pas motivée tout simplement par une crainte de l'enfer ou une crainte de qu'est-ce que les autres vont penser. Mais la plus grande motivation pour la pureté est une pureté qui est poussée par une reconnaissance et un amour pour ceux que Jésus a payé pour mes péchés sur la croix. Glorifie donc Dieu. Vous voulez savoir ce que Dieu pense de votre péché? Regarde à la croix. Vous voulez savoir c'est quoi l'opinion de Dieu face au péché? Regarde à la croix. Quand que vous voyez Jésus qui est massacré, déchiré, le corps qui est brisé, le sang qui coule, quand que vous avez témoigné sa souffrance dans le film « La Passion de Christ », une image de sa souffrance, ça c'est l'opinion de Dieu au sujet du péché. C'est ce que Dieu pense au sujet du péché. C'est l'opinion de Dieu sur votre péché et ça c'est le prix qui a été payé pour le péché. Un mot de Dieu était suffisant pour créer l'univers. Genèse chapitre 1, avec un mot, il a créé tout l'univers. Une parole, le fiat, l'impératif divin. Mais une parole ne suffisait pas pour les péchés de Marc Lecomte. Même la parole de Dieu ne pouvait pas régler mon problème de péché. Ça pouvait créer l'univers, mais pas régler mon problème de péché. Le péché est tellement sérieux que ça a pris la vie de Dieu pour régler mon péché. C'est ça le sérieux du péché. Et quand on voit l'horreur de la croix, on est poussé par l'horreur du péché. Ça, c'est comment Dieu voit le péché. Et on est poussé à chercher la pureté et la sanctification et glorifier le Seigneur par amour pour le prix qu'il a payé pour nous. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Vous voulez savoir ce que Dieu pense de votre péché? Regarde à la croix. Vous voulez savoir de ce que Dieu pense de vous? Regardez à la croix. Il vous aime, comme on a entendu ce matin. Quand je regarde la croix, je vois l'horreur de mon péché, mais je vois à quel point Dieu m'aime. Je vois son amour. Alors, oui, Dieu haït mon péché, mais Dieu m'aime. Il m'aime tellement que je vaux la peine qu'il meurt sur la croix pour moi. Tu vaux la peine. Jésus vous aime tellement qu'il a donné sa vie pour votre péché, votre liberté et votre pardon. N'est-ce pas ça une bonne nouvelle? C'est l'horreur du péché, mais ça vaut aussi la valeur de l'humanité aux yeux de Dieu. Je vois le péché et je vois l'amour et je dis, aide-moi à glorifier Dieu. Glorifie Dieu dans mon corps, comme l'apôtre Paul dit. Glorifie Dieu dans votre corps. Votre corps, ça veut dire vos actions, gestes, paroles, habitudes, appétits, sexualité, votre travail, votre hygiène, vos exercices, votre forme. Moi, j'ai décidé qu'en 2005, je vais faire attention. Je vais faire plus d'exercices, me mettre plus en forme, prendre soin de mon corps, manger comme il faut, parce que je vais glorifier Dieu dans mon corps par rapport au prix qu'il a payé. Il y a 2 ans, j'ai acheté une machine de muscles pour la maison. Il y a 2 ans. C'est une machine Nautilus, là, ça fait toutes sortes de différents muscles. Cette année, je vais m'en servir. Au contraire, cette année, j'ai décidé, je m'en sers tellement que j'ai décidé de donner la machine au ministère de Gap. Ça va être plus utile pour eux. Mais malgré ça, pas de machine ou machine, je vais faire attention de glorifier Dieu avec mon corps, mes gestes, mon corps, la façon dont je prends soin de moi-même. Dans ton esprit, l'apôtre Paul dit, pas seulement votre corps, mais votre esprit. Ça parle des pensées, l'intérieur, motivation, les études, la contemplation, l'adoration, l'intérieur, le privé, le caché. Je veux que la réflexion, je veux que la contemplation de la croix, le prix que Jésus a poussé, me pousse à la pureté. C'est pas facile vivre une vie pure dans une société perverse et pornographique comme que nous avons aujourd'hui. Ça prend une réflexion quotidienne sur le prix que Jésus a payé afin qu'à chaque jour je dis aujourd'hui, je glorifie Dieu dans mon corps et dans mes péchés, dans mes pensées, dans mon esprit, dans mon cœur, avec mes émotions. Je vais glorifier le Seigneur parce qu'il le mérite. Il a payé le plus grand prix pour moi sur la croix du calvaire. Est-ce que je peux entendre amen à cela? La pureté en 2005. Troisième prière que j'ai priée, c'est une prière au jardin du tombeau. Et c'était une prière pour la puissance. J'ai découvert quelque chose de spécial à cet endroit. Jésus est ressuscité. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? On découvre que Jésus est ressuscité. Il est vivant. Le tombeau est vide. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort et la maladie et le péché. Par sa résurrection, il a écrasé la tête et l'autorité du diable. Il a gagné la victoire. Il a renversé les plans de l'ennemi. Il nous a garanti une fin victorieuse. Jésus est ressuscité. C'est pour ça qu'on est là ce soir, parce que Jésus est vivant. Parfois, les gens disent que Dieu agit comme s'il était mort. Mais souvent, c'est nous qui agissons comme s'il était mort. On dit qu'il est vivant, mais on vit dans l'incrédulité. On vit dans la défaite. On dit qu'il est vivant, mais nos prières sont mortes. L'adoration est morte. Le service est mort. Et on se comporte comme s'il est mort. Je ne veux pas être coupable de cela en 2005. Je veux me comporter avec la conviction que Jésus est ressuscité. 1 Corinthiens 15, 14 et 20, l'apôtre Paul il dit, « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Si Jésus n'est pas ressuscité, nos prières sont futiles, notre foi est futile. La prédication, c'est la vanité, c'est l'inefficacité, c'est la futilité. Qu'est-ce qu'on fait? Prier, jeûner, chanter, prêcher, si Jésus est mort, s'il n'est pas ressuscité, c'est la folie ce qu'on fait ici ce soir. C'est la folie de jeûner 40 jours. C'est la folie, la prédication et la prière. Si Jésus est mort, c'est la futilité et la vanité. Mais l'apôtre Paul continue et dit, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Alors, nos prières ne sont pas futiles, ils sont efficaces. Et notre prédication n'est pas futile, elle est efficace. On peut prêcher avec passion, on peut prier avec passion, on peut croire avec audace et avec passion. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vain, ce n'est pas futile, ce n'est pas vide, c'est réel, c'est vrai, parce que Jésus est ressuscité. » C'est pour ça, quand on jeûne, quand on prie, quand on prêche, on peut le faire avec audace. Pasteur Claude, il nous a partagé une parole au jeûne et prière du staff pastoral avec les diacres mardi passé. Et la parole qu'il y avait, c'était la parole sans précédent. On croit pour un an 2005 sans précédent. Mais ça, c'est vain et futile si Jésus est mort. Mais la possibilité de vivre une année sans précédent est possible parce que Jésus est ressuscité. Quand le pasteur Claude, on ne parle pas de rumeur, là. Quand pasteur Claude prêche, comme ce matin et les semaines passées, sur la guérison et les miracles et les possibilités sans précédent, et quand on parle de la francophonie, et quand on parle d'une révolution spirituelle en Haïti, ce n'est pas des paroles vaines, ce n'est pas des paroles en l'air, ce n'est pas des paroles inefficaces et futiles. L'apôtre Paul a dit, si Jésus est mort, oui, c'est la folie ce qu'on fait, mais Jésus est ressuscité. Il est possible de croire à Dieu pour des grandes chose parce qu'il est vivant. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Jésus est vivant. Ça vaut la peine d'être ici ce soir. Jésus est vivant. Ça vaut la peine de prêcher, témoigner, prier, jeûner. Votre temps de jeûne n'est pas futile. Satan va souffler dans votre oreille. Ça donne rien de pas manger. Ça donne rien de jeûner. Ça, c'est pour des champions comme Pasteur Claude et des héros de la foi pour jeûner. Qu'est-ce que ça donne, moi, dans ma petite vie? Jeûner, prier, consacrer ma vie à Dieu. Qu'est-ce que ça me... Il va souffler dans votre oreille. C'est futile, c'est vain, c'est inefficace. Ça vaut rien. Mais Jésus est ressuscité pour Pasteur Claude. Claude, et pour vous, et pour moi, peu importe qui vous êtes, les années que vous êtes dans l'Église, il est ressuscité, et ça vaut la peine de jeûner, et prier, et marcher dans l'obéissance, et adorer, et être à l'Église, parce que Jésus est ressuscité, et c'est efficace, et ça va porter de fruits. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce soir? C'est vrai, il est ressuscité. Priez une prière pour la puissance. Jésus nous a promis la puissance. Puissance! Nous ne sommes pas victimes. Nous avons accès à une puissance. La puissance du ciel. L'autorité au nom de Jésus pour délivrance et guérison. Pour avoir des miracles. Pour voir des possibilités sans précédent. Jésus est ressuscité. Quatrième prière, j'ai prié. C'est une prière dans la chambre haute. Dans la chambre haute que nous avons visité, le lieu de la Pentecôte, j'ai pris une prière pour une nouvelle Pentecôte, pour une autre Pentecôte. J'ai contemplé qu'est-ce qui est arrivé dans ce lieu en Actes, chapitre 2, quand le Saint-Esprit a descendu sur l'Église. Et j'ai prié pour une Pentecôte personnelle, perpétuelle, remplie, d'être re-remplie, re-re-remplie, que je puisse marcher selon l'Esprit et d'être rempli de l'Esprit en tout temps pour communiquer l'Évangile avec l'efficacité et avec l'onction. Comprenez que ce n'est pas la résurrection qui a rendu les disciples en feu et puissants et des personnes d'impact, mais la Pentecôte décrite en Actes 2 et 4. C'était la résurrection implantée dans leur cœur, qu'on n'oublie jamais nos racines, qu'on n'oublie jamais d'où ce que nous venons. Et c'est ici, à la chambre haute, que l'Église a débuté. Et savez-vous quoi? L'Église a débuté dans une réunion de prière. L'Église a débuté dans une réunion de la puissance du Saint-Esprit. L'Église a débuté dans une soirée de l'Esprit, comme ce soir, dans un contexte de prière. C'est là que Dieu a envoyé son Esprit et que l'Église a débuté pour avoir un impact dans le monde entier. Qu'on n'oublie jamais nos racines, les racines de l'Église. Le mouvement de la Pentecôte est né dans la prière et la puissance. Moi, je suis un étudiant de la Pentecôte, un étudiant de l'histoire pentecôtiste, la théologie pentecôtiste, le mouvement pentecôtiste, et je deviens plus en plus convaincu qu'il faut revenir à la tradition pentecôtiste. De retour à la tradition, laisse-moi m'expliquer. Moi, je crois que la solution pour l'Église, pas juste l'Église Nouvelle Vie, mais l'Église en général, ici au Québec, pour l'an 2005, qu'on devient des églises traditionnelles. Moi, je ne crois pas qu'on a besoin de moins d'églises traditionnelles. On a besoin plus d'églises traditionnelles. Est-ce qu'il y en a qui sont surpris par ça? On a besoin des églises traditionnelles pour rejoindre le Québec et la francophonie en l'an 2005. Avant que vous vous inquiétez, comprenez que par la tradition, je ne parle pas de la formalité, de la routine, d'une église ordonnée, rigide. Souvent, on parle d'une église traditionnelle puis on a l'impression que c'est les morts vivants qui se promènent dans l'église. On parle d'une religion froide, détachée de la réalité moderne. C'est pas ça quand je parle de la tradition. Moi, je crois pas qu'il faut revenir à la tradition il y a 5 ans ou 10 ans ou 25 ans ou 50 ans. Moi, je ne parle pas de revenir à la tradition d'un homme ou d'un mouvement, que ce soit les Assemblées Pentecôtes du Canada ou les Assemblées de Dieu en France. Moi, je parle de redécouvrir la tradition il y a 2000 ans. On a besoin des églises de la tradition du livre des Actes, où ce que c'était la prière, jeûner, être rempli de la puissance du Saint-Esprit et témoigner pour bouleverser le monde. Est-ce que le pantalon amène à cela? Moi, je ne veux pas retourner il y a 50 ans. Je veux retourner il y a 2000 ans à la racine de l'Église. L'Église traditionnelle, c'est ça. Les gens pensent qu'il faut se débarrasser de la tradition. Mais moi, je parle de la tradition de la première Église, les premiers chrétiens puis les premiers croyants, la tradition de la puissance, de retour à la puissance, une tradition de croire Dieu pour la puissance. Les gens qui vont dire la clé puis le secret aujourd'hui dans la société moderne, c'est de se débarrasser de la tradition, s'éloigner de la tradition au traditionnalisme. Il faut devenir moins traditionnel pour la société contemporaine. Puis on essaie de trouver des méthodes contemporaines. On essaie de trouver des moyens pour rejoindre cette génération, des façons innovatrices, des approches nouvelles, des méthodes créatives, des méthodes post-modernes. Mais moi, je dis, c'est le contraire. Le problème avec l'Église aujourd'hui, c'est que l'Église n'est pas assez traditionnelle. À quelque part, en cours de route, nous avons perdu la tradition de la première Église. Et on essaie d'être toutes sauf l'Église traditionnelle qui est l'Église du livre des Actes. Et moi, je crois, pour atteindre cette société postmoderne, contemporaine, les Québécois et les francophonies de l'an 2005, il faut revenir à la tradition que nous avons perdue, qui est la tradition du livre des Actes, avec des moments de prière prolongés, et le jeûne, et la prédication, et la puissance du Saint-Esprit, avec des signes, des prodiges, des miracles, et la délivrance. Ce n'est pas une nouvelle méthode qu'on a besoin. Ce n'est pas un truc. Ce n'est pas une nouvelle approche innovatrice. Il faut revenir, il y a 2000 ans, au livre des Actes 2 et 4, quand ils ont crié auprès de Dieu. Ils ont crié, ils ont eu soif, ils ont prié, ils ont bombardé le ciel, et Dieu a répandu son esprit sur l'Église, et par la puissance du Saint-Esprit, ils ont bouleversé le monde. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Il faut plus d'églises traditionnelles. La tradition du livre des Actes. Pensez que l'église traditionnelle est une église routinière. Non, ce n'était pas une tradition plate, c'était une tradition mouvementée, sur le bord, radicale, puissante, pas routinière et froid. C'était le feu, le vent, le bruit, c'était la prédication, la tempête, le salut, la persécution, mouvement, signe, prodige, délivrance, vision, miracle, courage, prière, mission, évangélisation, guérison. Ça, c'était la tradition de la première église et il faut revenir à cette tradition-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est l'Église traditionnelle qu'on a besoin, la tradition du livre des Actes. Il faut retourner il y a 2000 ans. L'Église n'est pas née par un argument logique, par un débat intellectuel ou par un système d'organisation, mais une visitation divine de la part de Dieu. Et moi, je rends grâce au Seigneur pour l'Église Nouvelle Vie. Moi, je rends grâce au Seigneur pour Pasteur Claude et l'équipe et la vision de l'Église ici, parce que qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que la croissance de l'Église Nouvelle Vie n'est pas basée sur des trucs innovatrices, modernes, post-modernes, contemporains, mais l'impact de l'Église Nouvelle Vie, c'est parce qu'on prie et on jeûne et on cherche la face de Dieu et on prêche l'Évangile et on a des soirées de l'Esprit et on a l'évangélisation et on a l'action de Nouvelle Vie. C'est le livre des Actes et c'est comme ça qu'on a un impact sur le Québec et le monde francophone. Et il ne faut jamais perdre cette vision. Merci Seigneur pour l'Église traditionnelle qu'on appelle l'Église Nouvelle Vie, la tradition de Actes chapitre 2. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est la tradition. Moi, je voyage beaucoup, je prends des cours en Ontario, Canada, anglais, je fréquente beaucoup d'autres personnes, de pasteurs, d'étudiants et tout. Puis des fois, quand je parle de Nouvelle Vie, puis on entend parler de Nouvelle Vie, puis on dit, ils demandent toujours, c'est quoi le secret? C'est quoi le truc, là? Qu'est-ce qui fait là, la croissance et l'impact dans une brève période de temps de l'Église Nouvelle Vie? Donne-nous le truc, là. Donne-nous les cinq trucs ou les cinq secrets là, qui donnent la croissance et l'impact de l'Église Nouvelle Vie. Puis moi, je suis toujours heureux de les proposer le manuel de l'Église Nouvelle Vie. J'ai dit, je vais faire plus que te donner le secret de Nouvelle Vie. Je vais te proposer le manuel de l'Église Nouvelle Vie. Puis le manuel de l'Église Nouvelle Vie, c'est ça ici. J'ai dit, lève-la! Ça, c'est le manuel de l'Église Nouvelle Vie. Ça, c'est le livre de texte. J'ai dit, lis ce livre-là et vous allez savoir pourquoi qu'il y a un impact à l'Église Nouvelle Vie, parce que nous croyons à la parole de Dieu, la prière et la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? C'est la parole, c'est la prière, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est notre livre de texte. Ça, c'est notre manuel. On est une église de la tradition. On est une église traditionnelle. La tradition, oh oui, la tradition de quel mouvement? La tradition de Actes chapitre 2. Ils ont cherché la face de Dieu et Dieu a soufflé la puissance de son esprit sur eux. Qu'est-ce qui va rejoindre la génération contemporaine? C'est cela. Il faut aller en arrière pour aller de l'avant. Un peu comme un balançoire, il faut pousser par en arrière pour avoir un élan par en avant. On veut pencher vers en arrière, on veut pencher vers le livre des Actes, chapitre 2, pour avoir une puissance pour aller de l'avant. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est ce qu'on prie. Seigneur, puissance, ton Saint-Esprit, la Pentecôte, la puissance, la persévérance, la pureté. On pourrait arrêter même là, sur ces quatre points-là, et dire, c'est ça la clé. Ça, c'est la clé pour la vie moderne. Ça, c'est la clé pour cette génération. On a entendu ce matin qui cherche, sont désespérés. Quelqu'un, un écrivain, un sociologue, a dit que nous vivons dans une société, en anglais, il dit, « It is fearful and hopeless. » Rempli de crainte, vide d'espoir. Ça, c'est la société dans laquelle on vit. Qu'est-ce qui va rejoindre cette société? Ce n'est pas des méthodes innovatrices. Ce n'est pas des trucs ou des formulaires magiques. Qu'est-ce qui va rejoindre la génération contemporaine qui est liée, brisée, déchirée, désespérée? C'est la prédication, la parole, le témoignage. C'est la pureté. C'est un peuple qui persévère, qui croit à la puissance du Saint-Esprit comme à la Pentecôte. C'est un peuple qui croient à la puissance de la résurrection. C'est comme ça qu'ils vont passer d'un peuple fearful and hopeless à un peuple fearless and hopeful, qui sont remplis de l'espérance et vides de la crainte. C'est par ces principes bibliques qu'on peut redécouvrir la tradition qui m'amène à mon cinquième et dernier point. Bon, on continuera peut-être un autre moment donné, mais le cinquième, c'était la parole à Qumran, un autre endroit que nous avons visité. C'était le Qumran où j'ai prié une prière pour une fraîche respect, une fraîche appréciation pour la parole de Dieu, une fraîche appréciation pour la Bible, pour les Écritures, parce que c'est un lieu désert du secte juif, les Esséniens. C'était un peuple qui était consacré à la préservation, la protection, la reproduction, le copiage des Écritures. C'est là qu'on a trouvé les rouleaux de la mer morte, un parchemin qui était des écrits, des passages d'Isaïe, faits avant le temps de Jésus-Christ, qui a éliminé la thèse qu'Isaïe était écrit après Jésus pour éliminer l'élément prophétique. Ça, c'était la confirmation que c'est une parole de Dieu, c'est une parole surnaturelle, c'est la parole divine, c'est la parole prophétique. Et c'était un peuple qui avait une appréciation puis un amour pour la parole de Dieu. Et ce que je prie pour la 2005, Seigneur, rends-nous un peuple de la parole, qu'on chérit la parole, qu'on aime la parole, qu'on lit la parole, qu'on vit la parole, qu'on prêche la parole, qu'on étudie la parole, qu'on peut redécouvrir les richesses de la parole de Dieu. C'est une des choses qui est merveilleuse. Le plus qu'on étudie la parole de Dieu, le plus qu'on est émerveillé par la parole de Dieu. Le plus qu'on va plonger dans la parole de Dieu, le plus qu'on découvre qu'il y a des choses à découvrir dans la parole de Dieu. Vous remarquez cela? On peut faire des années d'études, puis de recherches sur la parole de Dieu, puis il y a toujours quelque chose d'autre à découvrir. Ça nous dit dans le psaume 36, 7, « Tes jugements sont comme le grand abîme. »« The great deep », ça dit en anglais, « les profondeurs de la mer. » Pour découvrir les profondeurs de la mer, il faut plonger. Il faut plonger. Puis quand on plonge sous-marin, c'est là qu'on découvre un autre monde, une autre planète, de toute beauté, de la création, des choses qui sont cachées si on ne plonge pas. Le psalmiste dit, ta parole, tes jugements, c'est comme l'abîme, c'est comme les profondeurs de la mer. Il faut plonger dedans pour découvrir des merveilles qui sont là. Et ma prière, c'est que nous pouvons plonger dans la parole de Dieu pour découvrir les mystères et les merveilles du Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? On s'engage de plonger dans la parole de Dieu. On veut plonger. On veut découvrir. On va lancer un programme ici le mois de mars pour l'Église Nouvelle Vie, en association avec l'Institut biblique du Québec, justement, pour l'enseignement théologique, doctrinal de la parole de Dieu. Ça va se passer ici, à l'Église même, à l'Église Nouvelle Vie. Et c'est un programme adapté pour ceux qui veulent, une fois par semaine, découvrir la richesse de la parole de Dieu. Aller juste un petit peu plus aux profondeurs, dialoguer, débattre, discuter, prendre des notes, étudier. On va le lancer parce que nous sommes convaincus qu'il y a des choses à découvrir encore dans la parole de Dieu. Puis on veut prendre le temps, dimanche matin, dimanche soir, mercredi soir, dans un contexte d'études et d'enseignement. On veut plonger pour découvrir les richesses de la parole de Dieu. Nous croyons à la Bible, à la théologie, à la doctrine, à la révélation de qui Dieu est en sa parole. J'ai pris une prière, Seigneur, une fraîche appréciation pour ta parole. Fraîche appréciation pour ta parole. Je veux plonger dans ta parole pour te redécouvrir et redécouvrir encore. C'était ma prière au Qumran. Par la suite, j'ai pris une prière pour connaître les priorités de Dieu. Ça, c'était à Galilée. J'ai prié une prière pour connaître la paix à Jérusalem. Puis j'ai compris que Jérusalem est une ville de paix. Mais c'est un paradoxe parce que c'est une ville qui ne connaît pas la paix du tout. Puis la seule façon que Jérusalem va connaître la paix, c'est par la présence du prince de la paix. J'étais à la mer morte. J'ai prié une prière pour la production. On va rapidement maintenant à la mer morte. C'est une prière pour connaître la production. J'ai prié pour connaître les priorités de Dieu. J'ai prié pour connaître la paix de Dieu à Jérusalem. Mais à la mer morte, c'était pour connaître la production. Il y en a qui vont dire, pourquoi la production à la mer morte? La réponse typique, c'est que la mer morte ne produit rien, elle est morte. Aucune vie, aucune issue, aucun mouvement. Alors, elle est bon rien, mais la vérité est le contraire. C'est ce que j'ai découvert. La mer morte est très productive, à ma surprise. C'est pour ça que j'ai prié la prière pour la production à la mer morte. Parce que j'ai découvert deux choses. La mer morte, premièrement, est miraculeuse. elle a fait flotter le pasteur Marc Lecomte. Combien croient que c'est un miracle, ça? Y a-t-il une mer sur la terre qui peut faire flotter cet homme-là? Oui, la mer morte flotte littéralement, même moi! Et deuxièmement, j'ai découvert que c'est une mer qui produit un baume, de l'huile qui est bien, qui est thérapeutique, qui est un remède. C'est une mer qui produit de l'huile qui est bonne pour la peau. Après 10 minutes dans la mer morte, tu sors avec une huile sur la peau qui rend ta peau lisse et souple et brillante. Vous l'avez peut-être remarqué. Il y en a qui disent, qu'est-ce qui t'est arrivé à Pasteur Marc depuis qu'il est arrivé d'Israël, là? Il a tellement une peau souple et douce. La peau lisse et souple est très importante pour moi. Il y a des hôtels tout autour du bord de la mer morte, des hôtels, des grands hôtels, des spas, où ce que les gens viennent partout dans le monde pour une thérapie, parce que ça produit une bombe. C'est là que j'ai prié cette prière. Je veux être quelqu'un qui fait du bien, une source de guérison, une huile fraîche et de rafraîchissement. Puis la deuxième prière que j'ai priée, puis capte cela, j'ai prié que ceux qui me connaissent le plus soient les gens les plus bénis. Parce que j'ai compris que la mère morte souffre d'une mauvaise réputation. Elle est mal comprise. Les gens pensent qu'elle est inutile, morte, bon, rien. Mais ça, c'est ceux qui sont loin. Ceux qui s'approchent découvrent quelque chose de bien en elle. Il faut s'approcher de la mère pour connaître ses bénéfices. Et ça nous arrive tous d'être mal compris, critiqués, jugés, accusés faussement. Et c'est une chose quand ça vient des gens qui nous connaissent pas, les gens qui sont de loin. Mais moi, je veux être certain que ceux qui s'approchent de moi, mes amis, mes proches, mon épouse, mes enfants, mes collègues, les étudiants de l'Institut biblique du Québec, vous à l'Église Nouvelle Vie, vous qui me connaissez, je veux être certain, peu importe ce que les autres pensent de Pasteur Marc, moi, je veux être certain que pour vous, je suis une source de bénédiction, un rafraîchissement, quelqu'un qui fait du bien. Et c'est une chose d'être critiqué par ceux qui sont à l'extérieur, mais comment que vous êtes aperçu par ceux qui vous découvrent? Et ma prière était, Seigneur, je peux prendre n'importe quelle critique ou attaque qui vient de l'extérieur, mais fais de moi en l'an 2005 une bombe, une source de rafraîchissement, une bénédiction pour ceux qui s'approchent de moi, que ceux qui s'approchent de Pasteur Marc peuvent découvrir quelque chose de bien. Et ma question n'est pas comment vous êtes aperçu par ceux qui vous connaissent pas trop, mais comment vous êtes aperçu par votre épouse, par votre mari, par vos enfants, par vos collègues au travail, par vos amis. Dieu nous appelle à être une bombe, une source de rafraîchissement, une thérapie et une guérison pour tous ceux qui s'approchent de nous. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Si les autres veulent critiquer, c'est correct, mais qu'est-ce que les proches pensent de moi, je vais être une source de guérison pour eux. Parce que le contraire est parfois vrai. Ceux qui nous connaissent de loin pensent qu'on est une bénédiction, mais le plus que les gens s'approchent, ils réalisent qu'on n'est pas une bénédiction. C'est facile d'être spirituel à l'Église, mais votre spiritualité n'est pas révélée à la table du Seigneur à l'Église comme ce matin. Votre spiritualité est révélée à la table du déjeuner le lundi matin. C'est là qu'on sait si vous êtes spirituel ou pas. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Pas la table du Seigneur, la table de déjeuner. Tout le monde a l'air spirituel de prendre la communion le dimanche matin, mais comment que vous êtes le lundi matin? Ceux qui sont proches de vous. Proches. Combien ici sont mariés? Combien ici sont mariés? Combien sont mariés pour la vie? Presque le même nombre. Je demande au mari, pour votre femme, est-ce que c'est une bénédiction pour la vie ou une sentence à vie? Vous êtes mariés pour la vie? C'est soit l'un ou l'autre. C'est une sentence ou une bénédiction? Ceux qui sont le plus proches de nous, ceux qui nous voient tous les jours, Dieu nous appelle Les autres peuvent critiquer. Le journal de Montréal peut écrire ce qu'il veut sur l'Église, l'Action, Nouvelle Vie, tout ça. Il ne nous connaît pas. Alors, il peut critiquer. Ça peut arriver. C'est arrivé à Jésus. Mais ce que je prie, c'est que quand les gens s'approchent de l'Église Nouvelle Vie, les gens de l'Église Nouvelle Vie, la jeunesse de l'Église Nouvelle Vie, l'éducation de l'Église Nouvelle Vie, les pasteurs de l'Église Nouvelle Vie, peut-être qu'ils vont entendre des affaires, les journalistes, les journaux, les étrangers, les gens qui passent sur le chemin ici en avant. La télévision peut dire ce qu'ils veulent. Mais ce qu'on veut, c'est quand les gens s'approchent de nous, comme quand ils s'approchent de la mer morte, ils vont découvrir qu'il y a un baume, une huile fraîche, une onction, une guérison. Ça nous fait du bien d'être à l'Église Nouvelle Vie parce que Jésus est là. Puis un amour qui se dégage de cette Église-là. On découvre la vérité. C'est ce qui est important. Ce que les gens proches de nous croient de nous. C'est ce que j'ai prié, Seigneur, que quand les gens s'approchent de moi, qu'est-ce que mes amis, ceux qui comptent, mes collègues, mes amis, qu'est-ce qu'ils pensent de moi? C'est ce qui est important. Alors, je vous propose une drôle de prière ce soir. Seigneur, rends-moi comme la mère morte. Combien sont prêts à prier cette prière-là? Rends-moi comme la mère morte. Les gens vont penser qu'est-ce qu'ils veulent quand ils ne me connaissent pas. Mais quand ils s'approchent, ils vont connaître quelque chose de bien. La dernière prière que j'ai priée, très rapidement pour terminer, la dernière prière que j'ai priée était le dernier, mais pas le moindre, pas du tout le moindre. C'était au mur de la lamentation. Au mur de la lamentation à Jérusalem, j'ai prié une prière pour la prière. Une prière pour la prière, plus. Le mur de la lamentation est le lieu de la prière le plus renommé sur la face de la terre. Une caméra qui est fixée sur le lieu 24 heures sur 24 afin de le visiter par le net. Le lieu de la lamentation, le mur de la lamentation, c'est le lieu où Salomon a prié sa prière renommée dans l'Ancien Testament, qui a demandé à Dieu d'exaucer les prières de ceux qui prient là, près du temple. Au mur de la lamentation, est-ce qu'on a entendu les gens prier? Oui! Est-ce qu'ils priaient des prières religieuses? Oui, il y en avait des orthodoxes qui priaient des prières répétitives, qui semblent être indifférents, mais on a aussi témoigné beaucoup de prières passionnées, intenses, sincères, des cris, des lamentations pour le secours divin. Et il faut comprendre que ces gens-là priaient le même Dieu que nous on prie. C'était le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Même s'ils ne connaissaient pas le Messie, Jésus-Christ, ils priaient le même Dieu que nous on prie à tous les jours. C'est pour ça que c'était complètement différent que les prières qu'on entendait les musulmans prier, qui étaient des prières publiques, qui étaient dans le grand système de son, 5 fois par jour. Et c'était un cri étrange, un Dieu étrange, qui inclut des paroles de malédiction pour les chrétiens et les juifs. Et ça, ça sonnait bizarre, parce que c'était un Dieu démoniaque. Mais ça, prière, c'était une prière au Dieu de la terre et le ciel, Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est au mur de la lamentation que j'ai vécu le moment le plus touchant de tout le voyage. C'est là que j'étais ému le plus pendant toute la semaine. C'était le vendredi soir, au coucher du soleil, vers 17 heures à peu près. C'était l'accueil du sabbat. Puis tous les vendredis soirs, quand le soleil couche, c'est le début du sabbat. Le jour du repos biblique, 24 heures. Puis c'était de voir des milliers de Juifs, des centaines, des milliers de Juifs. Pasteur Stéphane était là. Puis c'est juste d'être là, puis voir le soleil coucher. Puis dans, le soleil couchait. Puis là, tu voyais des gens venir de partout. Partout, partout, partout. Ça descendait les escaliers. Ça venait de gauche, ça venait de droite. Les vieux, les jeunes, les grands-parents, les parents, les petits, les ados. Ça venait main en main comme ça, au lieu de la prière. Ça venait prier. Ça venait pour l'accueil du sabbat. Ça venait avec joie. Ça venait avec anticipation. Ça venait avec un sourire sur le visage. Il y avait des familles entières qui se tenaient la main. Et c'était bénissant de voir des papas avec leurs petits. Puis ça allait au mur de la lamentation pour accueillir le sabbat, pour avoir un moment de prière et de célébration et de danse et de lamentation et de chercher la face de Dieu. C'était pour partir un 24 heures de communauté, un 24 heures de grâce et d'échange et de repos et de romance et de soirée familiale, de repas. Et c'est là que j'ai été ému, tous bien habillés, tous chics, et tous venir par des milliers au même endroit pour un moment de prière. Et moi, à ma propre honte, je ne pleure pas souvent. C'est très rare que j'ai des larmes larmes à ma propre honte et que je ne pleure pas souvent. Je suis rarement ému, malheureusement, à ma propre honte. Mais là, à cette scène-là, ça m'a pris tout pour me contenir. Si je me laissais aller, j'aurais pu juste me mettre assis comme ça et pleurer comme un bébé. J'étais ému de voir ces personnes tous venir ensemble pour un moment de prière, parce que j'ai capté une vision. J'ai dit, Seigneur, qu'on puisse voir au Québec, dans nos églises, dans nos villes, à Longueuil, le moment qu'on va voir des centaines et des milliers qui vont aller au lieu de la prière pour l'accueil de la présence de Dieu, des enfants, des jeunes, des ados, des grands-parents, des hommes, des femmes, main en main, avec joie, avec anticipation, qu'on puisse retrouver le lieu de la prière et la présence de Dieu. Et j'étais ému, j'ai dit, Seigneur, donne-nous ce moment pour le Québec et la francophonie. Et j'avais le goût juste de me prosterner à terre et pleurer et lamenter pour la francophonie. Il faut une visitation de la part de Dieu afin qu'on puisse voir des centaines qui viennent et se retrouvent à la maison de Dieu pour danser et célébrer et prier et se réjouir dans la présence de Dieu. Une vision pour le Québec et la francophonie. Est-ce que tu peux entendre amen à cela? Seigneur, attire des âmes, attire des familles, attire des jeunes, attire les enfants. On veut les voir venir, Seigneur. On te rend grâce pour 2300 ce matin, mais on veut voir 3000 et 4000 et 5000 et 6000. Pourquoi? Pour avoir une grande église? Non, parce que plus de gens dans l'église, moins de gens à l'enfer. Alors, Seigneur, attire les gens à l'église, partout dans le Québec et la francophonie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Marc chapitre 11, 17, Jésus a dit, « Ma maison sera appelée une maison de prière, comme le mur de la lamentation, un lieu de prière, de l'accueil, de la présence de Dieu. » Pour toutes les nations, combien croient que le Québec fait partie de toutes les nations? Un lieu de prière. C'est pour ça qu'il y a prière 40 jours, les prières de la semaine, les prières dimanche soir, mercredi soir, prière pour les femmes, les hommes, les ados, les jeunes, les enfants, parce qu'on croit à la parole de Jésus. Ma maison serait appelée une maison de prière. Puis j'ai une vision de voir ces centaines, des milliers, non seulement ici, mais partout dans notre province, partout dans la francophonie, en Haïti, Seigneur, qu'ils soient attirés par le lieu de la prière. Combien le croient avec moi? Hein? La prière pour la prière. Pour un lieu de prière et pour une visitation qui va attirer des centaines et des milliers. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Juste pour un instant ce soir, levons nos mains vers le Seigneur si c'est votre prière. Est-ce qu'on peut avoir un instant d'intercession? Est-ce que c'est votre vision? C'est une chose d'applaudir. Oui, on veut voir 100 personnes. Oui, on veut voir des milliers. Oui, on veut voir des gens attirés à la présence de Dieu. On veut voir des hommes et des femmes et des familles ensemble, réunis pour adorer le Seigneur. C'est une chose d'applaudir, mais c'est une autre chose de prier, de chercher la face de Dieu, de crier. Est-ce qu'on peut prendre 5 minutes d'intercession ce soir? C'est une soirée de l'esprit. C'est une semaine et 40 jours de prière. C'est un grand rassemblement de prière ce soir. Sébastien va nous conduire dans un chant, mais j'aimerais qu'on puisse lever nos mains et nos voix vers le Seigneur, d'en arrière jusqu'ici en avant. Commencez à prier. Commencez à prier, chercher la face de Dieu. Nous voulons le voir pour le Québec, Seigneur. Nous voulons le voir pour ma famille, comme qu'on a entendu ce matin, des rétrogrades qui sont guéris, des âmes qui sont attirées. Nous voulons voir, Seigneur, le moment, le jour qu'on va voir les dimanches matins, Seigneur, des milliers puis des milliers puis des milliers, où ce que les gens vont être bénis, les gens vont être émus à la scène. De voir des gens venir de l'ouest et de l'est, du nord et du sud. Et c'est comme si Dieu m'a marqué, c'est comme si Dieu m'a parlé à cet endroit-là. Il m'a parlé de cette possibilité-là. Il m'a parlé de la possibilité, comme m'a donné une scène prophétique, où ce que j'avais le goût juste de pleurer et crier, « Oui, Seigneur, oui, on le prend, je le prends. » Je le prends pour tous les étudiants de l'Institut public du Québec, que dans leur ministère, ils puissent voir des centaines et des milliers se rassembler au lieu de la prière. Je le réclame pour la France, je le réclame pour la Suisse, je le réclame pour l'Afrique, je le réclame pour l'Haïti, je le réclame, Seigneur, pour le Québec, je le réclame pour le monde francophone. On réclame, Seigneur, cette promesse, ce moment. Seigneur, Seigneur, j'ai prié une prière pour la prière. Que l'ère 2005 soit une année de la prière. Jeûné, prié, cherché la face de Dieu. Que moi, je peux me trouver à l'endroit de la prière avec joie. Que moi, j'approche le lieu de la prière, non comme devoir, mais avec anticipation. Que quand j'arrive au lieu de la prière à la maison de Dieu, ce soit avec joie, anticipation, avec un cri dans mon cœur. Que moi, je peux croire que Dieu exauce les prières. Dieu exauce les prières. On s'engage à cela, Seigneur. C'est notre prière. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez besoin en l'an 2005. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez besoin pour cette nouvelle année. Les 9 choses que je vous propose, on les met sur l'écran ici. C'est la persévérance, la pureté, la puissance, la Pentecôte, fraîche appréciation pour la parole, pour connaître les priorités de Dieu, pour avoir la paix malgré le chaos autour, par la présence du Prince de la paix, d'avoir une vie productive qui produit pour ceux qui s'approchent de moi, qui dégage l'amour et la bénédiction puis le rafraîchissement. Et surtout, c'est d'avoir une vie de prière. Je m'engage à prier des prières pour moi, pour ma famille, pour la francophonie, des prières pour les choses sans précédent, des prières selon la puissance de Dieu parce que Jésus est vivant. Combien sont prêts à prier ces prières-là? Combien sont prêts à prendre possession de ces 9 prières-là? Est-ce que je peux voir vos mains levées, vos 2 mains, puis dire oui, je les prends possession. Je les prends possession pour l'an 2005. Peut-être qu'on peut juste passer ici en avant. Moi, j'aimerais inviter tous ceux qui ont levé leurs 2 mains vers le Seigneur. Tous ceux qui veulent prendre possession de ces prières. On va prendre juste quelques instants, mais j'aimerais avoir le privilège de prier pour vous ce soir. Si c'est votre vision, si vous dites oui pour l'an 2005, la pureté pour l'an 2005, une nouvelle Pentecôte pour l'an 2005, la persévérance pour l'an 2005, une fraîche appréciation pour la parole de Dieu, je vais vous inviter à trouver une place ici à l'autel. Approchez-vous, levez vos mains vers le Seigneur. J'aimerais avoir le privilège de prier pour vous. Mais avant que je prie, prenez possession pour la prière. Le Saint-Esprit est ici. Et par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va vous communiquer ces choses-là. Il va communiquer ce que vous avez besoin. Il y en a ici ce soir qui ont besoin de la persévérance. Persévérance. Ils ont besoin de prier des prières toutefois. Des prières qui succèdent à la volonté de Dieu. Venez lever vos mains ensemble. Si vous voulez venir en couple, je vois des hommes et des femmes qui sont ensemble ici en tant que couple. En tant que couple, on s'engage à la pureté en 2005. En tant que couple, on s'engage à avoir une vie de prière qui va être puissante. On s'engage à persévérer jusqu'à la fin, peu importe les défis, à accomplir la volonté de Dieu, à faire ce que Dieu demande de nous. On remplit les autels. Levons nos mains vers nos voix vers le Seigneur. Commence à prier. On a des membres de l'équipe de prière qui sont ici, qui peuvent vous aider dans la prière. Mais cherchez la face de Dieu pour vous-même. Appropriez ces choses-là pour vous-même. Une nouvelle Pentecôte. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit ce soir? Levez vos mains, vos voix vers le Seigneur. Puis dites, remplis-moi. Une nouvelle Pentecôte. Je veux avoir le feu de ton esprit qui brûle dans mon cœur. Nous voulons la tradition du livre des actes. On veut crier pour l'audace. On veut crier pour le courage. On va avoir une percée, Seigneur. Rends-nous comme l'Église de livre des actes. Rends-nous des témoins efficaces. Remplis-nous la puissance de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Comme le livre des actes. Comme Actes chapitre 2. Comme Actes chapitre 4. Seigneur, on prie pour être un huile, Seigneur, de rafraîchissement. Nous voulons être des bénédictions pour ceux qui sont proches de nous. Seigneur, on veut bénir, on veut encourager, on veut dégager l'amour de Dieu. C'est ce qu'on prie par le Saint-Esprit.
C'est auprès de Dieu que je veux me tenir.
On veut passer des moments dans sa présence.
Il est mon
Seigneur. On veut approprier ces choses-là dans la prière.
Mon roi.
On veut les approprier dans la prière au nom de Jésus.
C'est auprès de Dieu.
Seigneur, que tu peux les sceller dans notre cœur.
Que je veux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix.
Demeurons en sa présence. On veut demeurer en sa présence. Qu'on peut fermer nos yeux, qu'on peut prier. Qu'on peut laisser le Saint-Esprit approprier puis appliquer les choses que nous avons besoin. Prenez quelques instants en sa présence. Pendant que le piano joue doucement, prenez quelques instants dans ces moments de prière. Prenez ce que vous avez besoin. Prenez ce que vous avez besoin. Avez-vous besoin de la paix? La paix qui vient de la présence du Prince de paix? Avez-vous besoin de la persévérance? L'année 2005 va être une année de grande bénédiction. Des choses qu'on n'a jamais vues auparavant. Mais avec ça, ça va être une année de grande guerre. De grands défis, de grands attaques, de grands combats. De grandes séductions.